Oui, Sébastien Lasserre?
Oui.
Vous m'entendez? Bonjour.
Je vous entends très bien, bonjour.
Bonjour. Donc, vous êtes un des deux programmateurs des rencontres cinéma de Jean Doux. C'est la 33e édition, si je ne me trompe pas. Cette année, l'invité d'honneur, si on peut dire, c'est Agnès Godard, qui est directrice de la photographie, puisque tous les ans, vous invitez soit un cinéaste, soit un producteur, dont cette année, c'est Agnès Godard, directrice de la photographie. Alors, avec, bien sûr, une présentation de nombreux films dans lesquels elle a participé, elle a travaillé avec de nombreuses réalisatrices et de nombreux réalisateurs. Ensuite, il y a les vagabondages cinématographiques avec des courts-métrages, des longs-métrages, des documentaires. Ensuite, la Cinémathèque, comme tous les ans, avec cette année un focus notamment sur Jean Rouge. Il y a aussi la programmation jeune public qui est vraiment très très chouette et qui donne envie d'aller voir. Et aussi des ateliers pour les jeunes, aussi, enfin pour les enfants. Sans oublier, parce que tout à l'heure, quand nous avons parlé, bavardé tous les deux au téléphone, j'avais oublié aussi le cinéma militant, avec cette année consacrée aux luttes féministes et avec notamment des films dans lesquels avait joué Delphine Seyrig. Donc nous allons parler de tout cela. Et ensuite, en un second temps, de tout ce que vous proposez en dehors de l'aspect purement cinématographique, si je puis dire. Et ma première question sera de vous demander pourquoi cette année le choix s'est porté sur Agnès Godard. Et puis aussi, peut-être en quelques mots, que vous définissiez le rôle bien précis d'une directrice de la photographie, en sachant que c'est très important au cinéma. Voilà.
Oui. Agnès Godard, c'est quelqu'un auquel nous pensions depuis
longtemps,
depuis un petit moment, oui, pour l'inviter à Jean Doux. Alors, directrice photo ou chef opératrice, parce qu'on utilise les deux termes. Pour le dire très vite, donc c'est la personne responsable de l'image sur un film. Voilà, ce qui signifie qu'un réalisateur a un film en tête, pour ne pas dire qu'il rêve son film. Et donc, au niveau de l'image, au niveau visuel, eh bien, finalement, il s'en remet, je dirais, aux compétences et à l'entente qu'il va pouvoir avoir avec la chef opératrice Agnès Godard, sachant qu'elle-même ensuite travaille avec une équipe, sachant que la fabrication d'un film est éminemment collective, elle n'est pas forcément extrêmement démocratique, mais elle est forcément collective avec différentes équipes, et c'est Agnès Godard, en l'occurrence, elle est ce qu'on appelle donc chef de poste. Comme il y a un chef d'éco, comme il y a un ingé son, et donc elle fait partie des collaborateurs nécessairement les plus proches
du réalisateur,
du cinéaste avec lesquels elle travaille. Peut-être même, pour ne pas dire la plus proche, par exemple, si on pense à sa collaboration, on en parlera peut-être
avec
Claire Denis. Et donc elle-même ensuite, entre guillemets, commande à son équipe d'éclairagistes, d'assistants caméra pour assurer ce travail qui finalement a deux aspects qu'on imagine aisément, qui est à la fois, bon, quand on parle d'entente et d'échange avec un cinéaste, eh bien évidemment là on réfléchit ensemble sur le film qu'on veut faire, et la chef opératrice eh bien est sollicitée par l'auteur, réalisateur, réalisatrice, sur les choix de mise en scène, sur comment tu vois cette scène, qu'est-ce qu'il serait possible de faire, et sachant que bon, toujours le cinéaste qui théoriquement a le dernier mot sur les intentions, mais ne jamais oublier que c'est aussi un travail de technicien.
Oui.
Alors de la technique de pointe, je dirais.
Oui, j'imagine.
Mais c'est aussi ça qui nous intéressait, c'est-à-dire d'inviter. Alors Agnès Godard n'est pas très connue du public, et pour cause, elle est derrière la caméra.
Oui.
Mais finalement, comme d'autres de la profession, comme d'autres directeurs photo, directrices photo, elle fait partie des grands noms, de la profession en France, qui travaillent depuis plus d'une trentaine d'années. Et donc, c'est vrai que quand on a eu l'occasion ces derniers temps de parler de notre festival à venir et de notre invité à des gens qui étaient dans le métier, à différents aux endroits, je dirais, dans le métier. Hein, oui. Pas forcément d'ailleurs des gens extrêmement confirmés et extrêmement expérimentés. Mais Agnès Loder, ça parle tout de suite. ça parle tout de suite et on se dit, ah oui, super, ça c'est une bonne idée. Une bonne idée aussi au sens où peut-être que c'est une approche... qui n'est pas si courante, c'est-à-dire de parler de cinéma avec une chef opératrice, c'est-à-dire en fait presque, je dirais, parler de cinéma sous le signe de la lumière, si oui. On peut le dire, c'est un peu facile comme expression,
mais c'est ça aussi.
Il n'y a pas d'image sans lumière.
Bien sûr.
Donc je dirais que le premier paramètre ou la matière première en quelque sorte de la chef opératrice, c'est le modelage de la lumière, c'est-à-dire c'est elle qui détient sur un tournage, je dirais, ce savoir-là qui consiste à maîtriser la lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle, et donc à éclairer une scène selon effectivement les intentions des cinéastes. Et ensuite, effectivement, on compose son image un petit peu comme les peintres précédemment.
On compose un tableau.
Voilà. Donc, nous, ça nous intéressait, c'est pas la première fois, mais c'est vrai qu'en général, nos invités d'honneur, c'est-à-dire à qui nous consacrons une rétrospective, sont des cinéastes.
Mais pas que.
Il y a deux ans,
Paul Branco.
Nous avons invité Paolo Branco, qui était un producteur, qui est un producteur. Et cette année, le pas de côté, c'est effectivement cette question de l'image, question de la lumière au cinéma, qui nous permet aussi, je dirais, d'explorer un petit peu la manière dont on fabrique un film. Et ça, je crois que le public aime cette approche-là aussi d'un film, parce qu'un film, évidemment, c'est une œuvre artistique, mais cette œuvre artistique peut-être au cinéma plus qu'ailleurs. Est très 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 largement lié aussi aux moyens qui sont mis en œuvre, à la question effectivement du coup technique, la manière dont on fait un film. Le réalisateur encore une fois rêve son film, mais attention, il y a un atterrissage toujours qui consiste à pouvoir mettre en œuvre le projet qu'on a dans la tête, et on ne peut pas tout réaliser, et puis parfois on peut réaliser des choses et même souvent des choses tout à fait exceptionnelles, mais c'est vrai qu'il y a toujours une tension entre effectivement ce qu'on a en tête et puis
réellement se faire.
Voilà, ce qui peut se faire. Et évidemment, tout ceci, en tout cas pour les grands, je dirais, pour les grands cinéastes, pour les grands techniciens, pour les grands films, souvent ce qui apparaît au départ comme une contrainte devient vraiment un moteur formidable pour la réussite d'un film. Et ça vaut aussi dans la relation qui se noue entre un producteur et un réalisateur. Un producteur qui dira à son réalisateur, oula, attention, on n'a pas le budget, mais de ce fait posera une contrainte qui souvent, enfin en tout cas pour les bons films, sera stimulante et permettra de faire encore mieux que ce qu'on escomptait au départ ou ce qu'on imaginait au départ.
Si vous disiez donc que le public appréciait aussi de voir comme ça tout ce qui se passe derrière la caméra, si je puis dire, c'est aussi votre, comment dire, le côté très pédagogique des rencontres de Jeindoux, puisque tout au long de l'année, il y a des choses qui se passent, et puis tout ce que vous proposez notamment à de jeunes réalisateurs, des fois qui vous permettez justement de pouvoir mettre un pied dans le monde du cinéma, en fait c'est tout ça qui est, comment dire, indissociable des rencontres de Jeindoux. Ça fait vraiment partie de l'ADN de Jeindoux, si je puis dire. Faire connaître le mieux possible.
Disons qu'en fait, on a huit jours de festival, mais en fait, on se donne du temps.
Oui.
On se donne du temps quand même pour pouvoir parler des films.
Bien sûr,
donc, ce temps qu'on a fait que, dans le fond, on va parler effectivement d'un sujet, de sujets qui sont portés dans tous ces films qu'on présente. Mais souvent, on va prendre le temps d'y arriver par...
petits chemins.
Par la matière, quoi, par la matière au sens propre, c'est-à-dire effectivement ce qu'on a vu à l'image, mais aussi et surtout, comment c'est venu tout ça, de la genèse d'un film, ensuite à son processus de création, de fabrication.
Donc, j'imagine qu'elle sera présente peut-être plusieurs jours.
Elle sera présente quasiment toute la semaine du festival.
Donc, avec des rencontres avec elle, j'imagine, au niveau des tchatches le soir.
Comme traditionnellement, on démarre un samedi soir, donc le samedi 19, Et comme chaque année, le dimanche, la tchatche du dimanche, puisque bon, pour ceux qui ne connaissent pas, on a un créneau quotidien de 17 à 19 heures pendant tout le festival, ce qu'on appelle donc les tchatches. Et pendant ce
temps-là, sous l'arbre à palabres,
voilà,
c'est ça,
on échange avec nos invités, qui sont donc pour la plupart des cinéastes. Mmh. On échange sur les films qu'on a vus avec le public.
Mmh.
Et alors parfois il y a, je dirais, presque trop d'invités, trop de films
à présenter, à commenter, à disséquer.
Parfois,
oui, d'accord.
Ces échanges-là se font dans la salle, quasiment en direct, en suivant la projection. Mais c'est vrai que, en règle générale, on préfère et on essaye, effectivement, de ménager un petit laps de temps entre le moment où on a vu le film et le moment où on en parle.
Mmh.
Et donc, pour revenir à Agnès Godard, le dimanche 20 août, entre 17 et 19 heures, ce sera la tchatche Agnès Godard. Ce sera donc 2 heures avec elle, ce qui nous permettra effectivement
d'aborder
un grand nombre de sujets sur la manière, enfin sur son métier, sur les collaborations et donc les films qu'elle a fait et du coup en fait sur sa vision du cinéma, parce que tout ça nous ramène toujours à l'idée d'enrichir un petit peu notre connaissance et notre amour du cinéma.
Mm-hmm.
Donc ce sera un temps là qui est bien identifié, le temps de la tchatche du dimanche 20, mais toutes les séances qui ensuite démarrent, la première soirée est consacrée à notre invité, et ensuite on présentera un film tous les matins,
tous les jours,
et puis dans la semaine il y aura 2 autres séances qui se passeront ailleurs qu'à Jindou.
Mm-hmm.
Mais pendant le temps de la présence avec nous d'Agnès Godard, elle présentera tous les films et je pense qu'il y aura un échange.
Mm-hmm.
Qui sera un peu un échange un peu improvisé et plus court.
Mm-hmm.
Mais après chaque projection.
Ouais. Dans cette rétrospective, dont il y a des films dans lesquels elle a participé, qui sont nombreux, avec différentes réalisatrices et réalisateurs.
Ouais.
Et tout à l'heure, vous m'avez dit qu'en fait, vous aviez fait cette programmation ensemble, vous avez cheminé ensemble, vous avez échangé. Et...
Oui, mais ça, c'est toujours, nous, notre approche, c'est-à-dire que, par rapport à n'importe quel invité, finalement, on leur donne dans un premier temps carte blanche. En tout cas, on leur donne la main sur cette programmation.
Mmh.
C'est-à-dire que, et en l'occurrence, Agnès Godard a donc choisi les films qu'on présentera. Il y aura 13 films au total, en comptant 2 courts-métrages.
Mmh.
Évidemment, ensuite, on a discuté de ces films, notamment, on s'est interrogé sur... Enfin, elle s'est interrogée, et on en a parlé ensemble, sur le film Trouble Every Day, de Claire Denis, un film notamment avec Béatrice Dalle, mais pas que, Vincent Gallo, Alex Descas. C'est un film de la fin des années 90, je ne me souviens plus de l'année exacte, mais c'est un film qui lorgne sur le cinéma de genre, pour pas dire un film qui a certaines scènes relativement gore. C'est relativement inhabituel d'ailleurs dans l'œuvre d'Agnès Godard et même dans la filmographie de Claire Denis. Bon, ce film-là, je crois que Agnès Godard tient vraiment à le montrer pour justement par rapport à une approche de son travail où je crois que c'était un peu la première fois qu'elle s'essayait justement au cinéma de genre. Bon, ce film, on va le présenter à 10h du matin,
d'accord,
par exemple. C'est un film qui est interdit au moins de 16 ans.
Mmh.
Voilà, bon.
Donc c'est au Louxor, c'est ça.
Voilà, ce qui est au Louxor, qui est extrêmement rare à Jindou. Et donc voilà, on s'est tout simplement interrogé si... Enfin, elle s'est interrogée, s'est demandé si à 10h du matin, c'était bien approprié.
Mmh.
Ben oui, c'est ça les choix.
Mmh.
C'est ça les choix de programmation.
Mmh.
Il faut assumer.
Mmh.
Et c'est un film très fort. Donc... voilà le type d'échange qu'on a pu avoir. Ensuite, évidemment Claire Denis, puisque bon, pour ceux qui connaissent Claire Denis ou ceux qui la connaissent moins bien, bon, c'est aussi l'une de nos grandes cinéastes d'aujourd'hui.
Mmh.
Elles sont, Claire Denis et Agnès Godard, un petit peu de la même génération. Mmh. Claire Denis quelques années de plus.
Mmh.
Elles se sont rencontrées, je ne sais pas comment, mais je peux supposer entre autres que leur relation et leur univers et du coup ensuite ce qu'elles ont noué, c'est-à-dire vraiment une collaboration professionnelle qui à mon avis doit être effectivement aussi une amitié avec tout ce temps-là, mais en tout cas elles se sont retrouvées ensemble dans les années 80 sur sur les tournages de Wim Wenders,
oui.
Notamment Paris, Texas ou Les Ailes du Désir, alors que sur ces films-là, Claire Denis n'était pas réalisatrice mais assistante
oui.
de Wim Wenders, et que de son côté, Agnès Godard était elle assistante caméra du chef opérateur de ces films-là. Donc ça c'est un bon. C'est une collaboration vraiment quasi
elle
historique.
Pense.
Et même dans le cinéma, c'est connu. Je dirais le duo Claire Denis Agnès Godard, comme en fait dans l'histoire du cinéma mondial, il y a comme ça
des couples, si on peut dire.
Oui, on peut dire ça comme ça. Donc il y aura 5 films de Claire Denis
d'accord.
dans notre rétro, ce qui était immanquable, je dirais. Ensuite.
Maintenant, peut-être, rapidement, parce qu'après, je vais peut-être vous demander, puisqu'il y a vraiment beaucoup, vous présentez beaucoup de choses, peut-être de passer au vagabondage cinématographique.
Mais je vais juste citer le nom des autres
cinéastes,
parce que du coup, je trouve que c'est quand même important
de les dire, bien sûr.
Même pour elle,
de
dire qu'elle n'a pas travaillé qu'avec Claire Denis.
Qu'avec Claire Denis, non, pas que,
il y a notamment Éric Zonka, qui présentera La vie rêvée des anges, c'est quand même un film qui avait eu un grand succès, un film de Noémie Milowski. Il y aura Fabrice Gobert, qui est un réalisateur plus jeune, mais qui est peut-être même plus connu pour la série Les Revenants, qu'il a écrit et même co-réalisé, je crois. Ursula Meyer, un certain nombre d'autres noms, hein, pas que celui de Claire Denis, et aussi Emanuele Crialese, qui est un cinéaste italien. Et on démarrera avec ce film, avec son film qui s'appelle Golden Door, un film dans lequel joue Charlotte Gainsbourg. Voilà.
D'accord. Donc maintenant, nous passons, si vous voulez bien, à la programmation des vagabondages cinématographiques, puisqu'il y a les courts-métrages, les longs-métrages et les documentaires. Ça fait beaucoup de choses. Et peut-être d'abord, juste un clin d'œil pour, dans ce cadre-là, La main tendue de Philippe Etienne, puisque Philippe Etienne est cinéaste, mais il avait été, si mes souvenirs sont bons, à l'origine de la création du Festival de Jeandouille.
Il n'est pas tout à fait à l'origine,
mais enfin, bien
cas, il a dirigé.
Par un certain temps, oui.
Cinéma, l'association porteuse du festival pendant une vingtaine d'années. Il est parti il y a 2 ans, entre autres choses, effectivement, pour pouvoir se consacrer davantage de temps
pour la réalisation.
Et La main tendue est son deuxième court-métrage de fiction. Il y a quelques années, Philippe avait fait un film qui s'appelle Amsterdam. Et donc là, un nouveau film d'une vingtaine de minutes s'appelle La main tendue, qu'il a tourné l'an dernier à côté de Montauban, à Montauban même.
C'est le département dans lequel il habite, d'ailleurs.
Voilà, exactement. Ce Philippe, ça a pris du temps à faire ce film, parce que faire un film, qu'il soit court, qu'il soit long, c'est tout un parcours du combattant.
Bien sûr, de recherche.
Que ce film La main tendue est un film d'une facture très classique, mais où il y a une vraie émotion, et où il y a quelque chose qui me semble très... des choses importantes qui nous sont dites dans ce film, sur la manière, encore une fois, de faire société ensemble, disons-le comme ça.
Donc après, dans cette programmation, il y a les films qui sont en relation avec l'état du monde, si on peut dire, avec notamment les migrants, la guerre en Syrie. Après, il y a les choses, les approches plus sociétales, comme notamment les mères porteuses. Enfin, c'est très spécial, puisque le film de Fabien Gorjard, Diane a les épaules, dont c'est une jeune femme qui décide de porter un bébé pour 2 de ses amis, comme ça, très naturellement, si je puis dire, sans passer par tout ce qui est administratif, qui est très lourd. Il y a aussi, 120 vêtements par minute, donc il y a à voir avec le sida.
Pour compléter, le film dont vous parliez de Fabien Gorjard s'appelle Diane a les épaules.
Oui.
C'est un premier long métrage, ça sortira cet automne. Moi, ce qui me plaît à rappeler, parce que personnellement, même ça me touche, le réalisateur qui m'a dit, quand on a confirmé la programmation du film, et d'ailleurs ce sera la première du film à Jeandouille, me disait qu'il y a donc plus d'une dizaine d'années, son premier court-métrage et la première de son premier court-métrage avait eu lieu à Jeandouille. Et que donc ça lui faisait quelque chose
de revenir avec un long métrage.
Voilà, et c'est ça aussi un petit peu la mission d'un festival, de pouvoir
donner l'opportunité.
Voilà, du court et ce passage, notamment du court métrage au long métrage,
Qui est
de pouvoir suivre comme ça le travail d'un auteur et pouvoir, je dirais, mettre en avant ces films, en espérant bien entendu que qu'ensuite ces films-là puissent
être vus par le
dans les salles. Donc Diane à les épaules, oui, c'est ce film dont vous parliez, et c'est un film très extrêmement vivant, qui a des petits airs de comédie, mais où là, il y a une justesse et une simplicité dans le dans ce film, dans la manière de raconter cette histoire et donc de faire part de ce sujet là, de cette femme qui devient donc une femme porteuse donc du bébé de ses amis. C'est vraiment je pourrais le dire sur à peu près tous les films, mais c'est vrai que sur ce film-là et Diane à les épaules, j'espère qu'on sera nombreux. Et je sais déjà que le réalisateur m'a déjà dit qu'il avait un grand trac à venir présenter ce film à Jindou, parce que je crois aussi, et c'est ça, ça me permet de le rappeler, mais je crois que beaucoup de nos invités ne me démentiraient pas, mais qui leur plaît. Bon, à Jindou, il y a un lieu, il y a une certaine ambiance, mais pour les films qu'on peut passer le soir en plein air, là, c'est vrai que là, les réalisateurs sont heureux parce que le cadre
est magnifique. Et
même s'ils ont pu parcourir le monde avec leurs films, c'est un cadre magnifique, en tout cas assez rare.
Le cinéma de verdure,
de verdure en plein air avec 1000 personnes, c'est vrai que...
Sous les étoiles,
voilà. Bon, il y a d'autres lieux dans le
monde,
bien entendu, mais celui-ci est toujours... il y a toujours une... quelque chose d'un petit peu spécial, et je crois qu'en l'occurrence, par rapport à Fabien Gorgin dont je parle à l'instant, je pense que il y a ça aussi qui lui tient à cœur.
Dans les gens qui sont déjà venus à Jindou, votre invité de l'an passé, cette année, présente aussi un documentaire, Malais en son exil.
Denis Garbrandt, qui est un documentariste, qui était notre
photographe à l'origine.
Voilà, exactement. Et Denis, d'ailleurs l'an dernier, quand il était venu à Jindou, il avait présenté un montage de ce film qui s'appelle aujourd'hui Malais en son exil, et dont il a terminé le film depuis. Et moi, c'est un film qui me plaît beaucoup. Malais, c'est un homme d'une cinquantaine d'années qui vit en région parisienne, qui est malien, qui travaille dans une société de nettoyage
de bureaux,
qui vit ensuite dans un foyer et qui est en permanence, qui est très 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 régulièrement connecté avec le Mali et avec sa famille qui est restée là-bas. Et donc Denis a suivi cet homme pendant plusieurs années, toujours selon la même méthode, tout seul avec sa caméra. Et c'est vrai que ce film s'ouvre sur une citation d'Abdelmalek Sayad, dans un bouquin qui s'appelle La double absence, où il explique, je vais pas le redire, mais précisément, mais en gros, que quand on part en exil, on part avec tout ce qu'on est, avec tout un bagage qui est ce qu'on a dans la tête. La culture dont on hérite et tout ça, et que ça paraît, vous dites bien sûr, ça paraît une évidence, mais c'est ça aussi qu'il faut
reconnaître. Mettre en valeur, je comprends ce que vous voulez dire.
Pouvoir reconnaître.
Le
faire aussi sans, sans complaisance. Et Denis Garbrandt, c'est vrai que dans ce film, il y a parfois des échanges qui sont, où ça frotte un peu, où c'est, parce qu'effectivement, certains propos, notamment sur l'excision, dans ce film, où, Malais, en l'occurrence, lui, a un certain point de vue qui, d'une certaine manière, défend
l'excision,
qui ne sert pas à grand-chose de lui faire à ce moment-là un discours de morale, même si on le pense très fort, mais par contre, prendre conscience que cet homme-là est ici, un invisible, avec un travail absolument utile, mais évidemment, je dirais au plus bas de l'échelle, donc vivant de peu, puisque à peu près tout ce qu'il gagne repart là-bas. Et en même temps, cet homme, la démarche, c'est vraiment d'aller vers lui.
À sa rencontre,
et d'échanger avec lui, et d'essayer de comprendre un petit peu qui il est.
Et comment il peut...
Je signale aussi, parce que ça, c'est un film qui, je pense, d'ailleurs, va passer quelques jours après Jindou à Toulouse. C'est un film qui s'appelle L'usine de rien, de Pedro Pinho, un film portugais. Ça, pour nous, c'est un pari, un petit peu. Alors là, je dirais juste simplement en tant que programmateur, puisqu'on c'est un film de 3 heures qu'on va proposer en plein air.
Mm-hmm. Donc, dans le soir.
Voilà. Comment ?
Le soir.
Le soir, voilà. Oui. Et l'usine de Rien, c'est l'histoire d'une usine dans la banlieue de Lisbonne. Mm-hmm. Une usine qui est appelée à fermer. C'est ce qu'on apprend au début du film. Et c'est une fiction. C'est une fiction qui mêle des acteurs professionnels et non professionnels. Mm-hmm. Les acteurs non professionnels, on se doute que ce sont pour partie les ouvriers de cette usine qui jouent un peu leur propre rôle.
Oui.
Mais c'est un film de 3 heures qui cherche une sorte d'investigation, hein, en essayant d'aller plus loin, en dépassant un petit peu la surface des choses, pour essayer de faire l'analyse sur un plan à la fois social, mais aussi sur un plan plus intime, hein, des répercussions de ce fait-là, qui finalement est un fait, je dirais, très universel. Ça pourrait être l'usine de Fumel dans le Lot-et-Garonne, pas très loin de chez nous.
Mm-hmm.
Et en tentant voilà un peu une introspection de cette situation. Donc c'est un film éminemment politique, mais qui me semble pas tant dogmatique parce que justement prendre 3 heures, ça veut dire que il y a des arguments et des contre-arguments.
Oui, pour bien cerner la situation.
Voilà.
Oui.
Et puis par le biais de la fiction encore une fois, c'est-à-dire par le biais de la mise en scène de personnages.
Mmh.
Et ça, je dirais pour créer une empathie, sans doute une empathie plus forte encore.
Mmh.
Avec ce qu'on a à dire. C'est un film vraiment. Là, on pourrait lire un film monde, hein, par tout ce qu'il charrie, et très ambitieux aussi dans sa manière. C'est vraiment un très beau film, hein, esthétiquement. Voilà. Donc, L'usine de rien, en même temps, c'est un film de 3 heures. Donc, je m'attends aussi à des réactions qui pourront peut-être être un petit peu perplexes, hein, dans la durée de ce film. Et donc, nous, on va le passer en plein air, en présence du réalisateur Pedro Pinho. Voilà.
D'accord. Peut-être, alors, pouvons-nous évoquer aussi rapidement L'obsolescence programmée des machines de Marie-Sophie Chambon, donc qui raconte l'histoire d'une petite jeune fille qui est en troisième et donc qui doit faire ce stage comme ça en milieu, comment appelle-t-on, je ne sais plus comment il qualifie ça, et parce qu'elle a un peu marre de son collège, et puis elle s'aperçoit qu'en fait le monde du travail, ce n'est pas forcément non plus très joyeux et qu'il peut être aussi cruel.
C'est vrai. Alors ça, c'est l'un des, donc on doit avoir à peu près entre 15 et 20 courts-métrages, une quinzaine de courts-métrages sont programmés. Alors il en fait partie. Marie-Sophie Chambon, je crois qu'au moment où on montrera ce film, elle démarrera les premiers tours de manivelle, si je puis dire, pour le tournage d'un premier long métrage.
D'accord.
Puisque voilà, c'est aussi quelqu'un qui a fait plusieurs courts-métrages avant de passer au long.
Au long, oui.
Et donc ce film, c'est une. C'est une comédie un peu grinçante.
Oui, j'imagine.
mais à la fois, d'abord et avant tout, je pense sur cet âge de la vie, c'est-à-dire
l'adolescence.
D'une adolescente qui ne se sent pas
bien.
Très bien a priori dans
où elle est.
Niveau. Et effectivement, elle va avoir un drôle de, je dirais
de découverte, une drôle de découverte.
On va lui donner la réplique en fait, en quelque sorte, et c'est le monde des adultes, et le monde du travail qui va lui renvoyer une image assez dépressive.
Mm-hmm.
Disons-le comme ça, et donc la réalisatrice, là-dessus, nous raconte un peu la
déconvenue, pour ne pas dire plus.
Oui, la déconvenue, mais le regard que porte cet ado,
sur le monde.
Voilà, hein, elle est loin d'être bête, c'est le moins qu'on puisse dire, donc elle est pas dupe, et je pense qu'elle a tout compris au bout de 30 secondes, mais du coup, voilà, c'est un film qui fait 30 minutes.
Mm-hmm. 27 exactement.
Voilà. mais c'est vrai que quand on parle des courts-métrages,
c'est important, de pouvoir les montrer.
Voilà, donc c'est vrai qu'après on pourrait en parler de
longuement.
Parler chacun des films.
Bien sûr. Oui.
Bon, c'est un peu compliqué dans le temps qu'on a, mais.
Oui, vous voulez dire que c'est important de pouvoir aller découvrir les courts-métrages.
Oui, non, mais ça c'est vrai aussi, c'est bien de prendre
vous le dites un court-métrage souvent,
parce que c'est vrai que le court-métrage c'est du cinéma.
Ben oui.
Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais on peut être infiniment plus touché par un film de 5 minutes ou même plus court
qu'un film de 2 heures. Bien sûr.
Donc déjà, en soi, voilà, un film, un court-métrage, c'est à. c'est du cinéma, donc ne nous en privons pas. Et ensuite, évidemment, et ça, on revient à cette mission qu'on a en tant que festival de cinéma, montrer des courts-métrages, c'est aussi montrer, je dirais, l'avenir du cinéma, en quelque sorte, puisque, assez logiquement, les cinéastes, pas tous, il y a évidemment des exceptions qui confirment la règle, mais...
pas sur long métrage.
Mais pour souvent, font d'abord un, deux, trois, plusieurs courts-métrages avant de pouvoir développer un projet de long métrage. Et je suis certain que parmi ceux qu'on va inviter cette année, je pense par exemple à quelqu'un comme Steve Acciepo, qui là vient pour un film qui s'appelle Le jour de ton jour, et bien en même temps, je sais qu'il est en train de faire ce qu'on appelle déposer son projet avec un producteur pour un premier long métrage dans les commissions d'aide. Donc, et je suis sûr que...
Vous l'accueillerez ultérieurement.
Je pense que Steve Acciepo, parce qu'après après cette question de faire... d'accoucher d'un film, ça démarre justement par ces histoires de production, ces histoires de financement.
Et oui.
Donc s'il n'y a pas de déboire à ce niveau-là, il n'y a pas de raison. Je pense que Steve Acciepo, c'est un réalisateur qu'on connaît quand on est dans ce milieu-là du court-métrage, mais qui est appelé à, en plus lui, les comédiens également, mais appelé à devenir un cinéaste avec, je dirais dans la à l'étage supérieur. Pareil, entre guillemets, du long métrage.
Peut-être nous allons, je ne sais pas si vous êtes d'accord, évoquer, ce sont des documentaires, mais des spectres entre l'Europe, avec les problèmes des migrants, puisque c'est d'actualité ô combien,
Alors là, ça, c'était une co-réalisation.
Maria Kourkouta et Niki Giannari.
Voilà, elles sont grecques. Elles sont grecques et le film a été tourné en mars 2016 à la frontière gréco-macédonienne.
Ouais.
Et Niki Giannari, elle est écrivaine. Ma connaissance, pas publiée en France. Enfin, y a un bouquin là qu'elle a coécrit avec Georges Didier Huberman là, qui va sortir à l'automne.
D'accord.
Et je crois que c'est en relation avec ce film justement. Et Maria, c'est elle davantage la cinéaste des deux. Elles sont. Mais Niki Giannari est une écrivaine assez, je crois, assez engagée politiquement. De ce fait, elles se sont retrouvées donc à aller filer un coup de main, si j'ai bien compris, dans ce camp à la frontière gréco-macédonienne, à ce moment où il y a donc cet afflux de personnes qui fuient. Non, mais à un moment où effectivement la frontière est fermée. Voilà. Et la démarche là de cinéaste, le filmage, là il y a une démarche relativement assez exigeante, assez radicale, on dira, puisqu'il n'y a pas d'interview. Voilà, il y a une caméra qui observe et on est là plongé on est au cœur de ce camp, à une certaine distance, qui est peut-être la distance qui est la nôtre, parce que je crois que le film n'a pas du tout, évidemment, l'ambition, mais c'est pas du tout le bon mot, ne nous donne à aucun moment l'illusion de nous dire, c'est ça, regardez, vous y êtes, vous le vivez. Non, on le vit pas du tout, mais on est là, on observe un petit peu en même temps dans la durée des scènes, et dans leur ingratitude aussi, parce que effectivement, c'est un décor qui est le décor d'un camp, c'est très spécial comme expérience de film, mais je crois que ça correspond aussi à
l'air du temps, si on peut dire.
À l'urgence du sujet, était aussi ce film un petit peu le reflet un peu de notre désarroi par rapport à cette situation.
Bien sûr, que peut-on faire ?
Il nous en informe de l'intérieur, on va dire, vraiment.
Vous voulez dire qu'il pose des questions, quoi,
Il prend le temps. Oui, il pose des questions, mais je dirais qu'il essaye de faire son travail vraiment, de documentaire, au sens de nous documenter réellement sur ce que c'est, au-delà des revues trop rapides, des clichés trop vite établis. Et donc c'est un film évidemment assez poignant, qui peut, mais qui n'est pas dans le misérabilisme, par exemple, vraiment pas. C'est très riche parce qu'il y a aussi une épaisseur historique. Il y a aussi, ça se termine par un texte de Niti Gianari sur des qui aurait pu être écrit à d'autres époques du XXe siècle. Pour ce film, mais où malheureusement on n'aura pas les cinéastes avec nous. On y reparlait de ce film.
Mais puisque dans cet événement encore en plus accentué, si je puis dire, je vous suggère de parler des éclats de cinéma militant dont les courts-métrages avaient notamment les bobines féministes et avaient notamment une participation en tant qu'actrice, mais aussi c'était une grande militante de Delphine Seyrig.
Oui, alors en fait ça c'est une nouvelle case.
Oui, j'ai vu.
Petite case dans notre programmation qu'on a intitulée Éclat de cinéma militant. Quand même pour la petite histoire, c'est une idée d'une personne qui a rejoint notre conseil d'administration, et j'en doute, qui est Christophe Gauthier. Je cite Christophe, parce que Christophe était anciennement le conservateur de la Cinémathèque de Toulouse.
D'accord.
Donc à l'époque, on était en relation avec lui quand il était à ce poste-là pour justement bâtir la programmation
de la Cinémathèque.
C'est comme ça qu'on s'est connus, qu'on a sympathisé. Maintenant, il a rejoint l'équipe de Jeindoux parce que professionnellement, il est retourné à Paris.
D'accord.
Et donc, il nous a suggéré cette séance d'éclat de cinéma militant, c'est-à-dire militant au sens où ce sont des films qui entendent effectivement, alors là pour le coup, défendre quelque chose, avoir une cause.
Avec conviction.
Des convictions à porter, avec, je dirais, un affichage qui consiste à chercher ostensiblement à convaincre le public, c'est ça. C'est ça la démarche de militante. Et effectivement, ce qui nous intéressait là, c'est que, je dirais, c'est tout un cinéma, si on peut parler de cinéma, oui, on peut parler de cinéma, c'est tout un cinéma, effectivement, relativement en marge. C'est celui-là qu'on souhaiterait un petit peu mettre en avant.
Développer, oui.
Avec, pour beaucoup... De la vidéo, dans les premiers temps de la vidéo. Et donc, il nous fallait quand même évidemment un axe. Donc là, l'axe de cette séance Éclat de cinéma militant, donc c'est porté sur la question féministe, la question féminine, pour le dire finalement plus simplement, avec des films dans des années 70, et effectivement avec la figure de Delphine Seyrig, qui était extrêmement, extrêmement engagée dans toute cette époque-là, qui signait le manifeste, en 71, et puis ensuite c'est comme la période de la légalisation de l'avortement. Donc il y a tout un enjeu, une actualité, mais aussi un enjeu très fort pour ces militantes, ces filles militantes féministes, parce que il y avait vraiment beaucoup à faire. Donc là on va rendre compte un petit peu de cette période et de cet engagement avec deux films qui datent eux de 1976, et notamment un film qui s'appelle Mazo et Miso vont en bateau, qui est le détournement d'une émission de Bernard Pivot en 75 avec où on retrouvait Françoise Giroud, qui devait être au gouvernement à l'époque.
Ministre des droits de la femme, oui,
voilà,
c'est ça.
Et où Delphine Seyrig et ses comparses, Carole Rousseau-Poulos, Yona Vider, Nadja Ricard, on réagit très, très, très...
énergiquement, Giroud.
Très énergiquement à cette émission qui s'intitulait Encore un jour et l'année de la femme.
Ah oui, oui.
Ouf, c'est fini. Donc évidemment, ça les a fait bondir. Et un film assez... assez décoiffant. C'est vraiment une séance un peu, je dirais, insolite, mais c'est pas pour minimiser,
le propos
et le fond, et parce qu'en plus ça a des résonances, de drôles de résonances aujourd'hui, avec ce qu'on vit aujourd'hui. Mais par contre, de toute évidence, c'est des formats de films différents. C'est de ce point de vue-là. C'est relativement inédit, des films assez rares, et c'est une séance qui sera présentée par Hélène Fléquinger, qui est universitaire, qui travaille justement sur cette relation,
sur cette relation
entre cinéma, vidéo et puis féminisme. Voilà.
Peut-être, parce que là, la pendule avance, malheureusement, évoquer aussi la programmation jeune public, qui est vraiment un enchantement, je trouve. Alors, d'une part, il y a les petits films qui sont présentés, ouais. et puis aussi, vous proposez des ateliers ayant un rapport, bien sûr, avec le cinéma aux enfants.
Oui. Mais ça, c'est... Bon, alors, qu'il y ait des films présentés pour les enfants, ça, c'est un souci qu'on a chaque année. Notamment, là, il y aura donc un nouveau Wallace et Gromit là, qui va sortir à l'automne. Bon, ça, c'est une chose. Voir des films, c'est un, je dirais, un premier volet. Ensuite, c'est question du faire. C'est-à-dire...
De montrer.
D'aller plus loin qu'effectivement montrer.
De faire participer.
Prendre le temps avec, avec les jeunes de... Voilà, d'un petit peu... Encore une fois,
comment ça se fabrique,
essayer de réfléchir à tout cela et par le biais de petits ateliers. C'est vrai que ça correspond aussi à un travail qu'on fait voilà, tout au long de l'année. Et il se trouve que depuis 2 ans, on a conçu une exposition, disons-le comme ça, sur les techniques et l'histoire les débuts du cinéma. Et que finalement, à partir de cette exposition, elle peut être déclinée par plein de petits ateliers. Des petits ateliers cinéma, des ateliers qu'on peut qualifier de pédagogiques. Et donc, on va les proposer vraiment. Et d'ailleurs, ce sera la première fois. On va vraiment les proposer, je pourrais même dire en masse, pendant le festival.
Oui, il y en a beaucoup,
Et du coup, autour des jeux optiques, autour du montage, enfin, et ça sera des séquences d'une heure et demie. Voilà.
Ah oui.
Donc
assez construite.
Ce sera sur inscription. On sera là dans le faire. Vraiment faire des images, les fabriquer par différents biais.
Techniques.
Voilà, elles sont téléphones, vêtements. Donc ça, je pense que c'est une proposition. À ce point-là, je dirais chaque année, on essaye un petit peu de l'enrichir. Donc, ça commence à devenir assez significatif dans notre programmation.
Oui, ça a une place,
Oui. Donc, ça, c'est pour le jeune public. Juste avant qu'on termine sur la programmation...
Il y a la programmation de la Cinémathèque.
Voilà,
aussi,
au niveau patrimoine. C'est une carte blanche, là, pour le coup, la Cinémathèque de Toulouse et les Archives françaises du film, avec une thématique cette année qui est une thématique assez large, finalement, qu'on a intitulée Être dans la peau d'un autre. Et ça vaudrait pour beaucoup d'autres films qu'on montre. Et donc, on présentera des films de Jean Rouche. Jean Rouche, donc ce cinéaste. Ethnographe, ethnologue en même temps, qui est décédé il y a une dizaine d'années, qui était venu à Jindou en plus en 95, je crois, moi je n'y étais pas. Donc quelqu'un qui a beaucoup inspiré les cinéastes de la Nouvelle Vague, puis c'est quelqu'un qui, je dirais, a mêlé son travail d'arpenteur, je dirais, ethnologue, ethnographe.
Mais militant aussi.
Et militant, mais qui a arpenté tout ce terrain-là avec une caméra. Et donc, en ce sens-là, assez précurseur, en ce sens-là, je dirais finalement, avec une démarche absolument convaincue de prendre le temps d'aller vers l'autre et voire même de faire les films, des films avec
les gens qui rencontraient,
voilà, des gens dont on pouvait penser notamment qu'ils étaient assez éloignés de cet outil-là. C'est comme Jean Rouche ensuite qui a participé aussi à la création des ateliers Varan. Donc c'est vrai, c'est intéressant de... il y a une actualité Jean Rouge, ce centenaire de sa naissance, il était né en 1917. Donc ça correspond bien à notre programmation. Je signale aussi 2 autres films là-dedans, Monsieur Klein, Joseph Losey, dans lequel on retrouvera Alain Delon, mais surtout Jeanne Moreau.
De nous quitter. Oui.
Voilà, exactement, ça je le dis. Et puis aussi un film assez étonnant, il s'appelle Brother, de John Sayles, un film des années 80, un film américain, et qui fait partie des collections de la Cinémathèque de Toulouse, un film dans lequel c'est l'arrivée d'un extraterrestre aux États-Unis qui arrive à New York et il arrive dans le quartier d'Harlem, le Bronx, parce qu'il est noir, voilà, et qui va aller vers ce qui lui ressemble. Donc c'est un film aussi extrêmement politique, en fait, mené tambour battant, mais alors, voilà, là pour le coup, assez inédit, voilà, que je recommande.
D'accord. Donc maintenant, nous allons évoquer, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais ce que vous faites en dehors du cinéma, c'est-à-dire cette ouverture, cette toile que vous tissez vers les autres arts, et notamment avec une répétition publique dans le cadre de la culture sans racines, avec une résidence territoire de Martin Le Gall, qui présente La chose étrange d'aimer, et c'est un spectacle pluridisciplinaire, et qui s'inspire d'une pièce de Molière, c'est bien cela.
Oui, l'école des femmes.
Alors... Et sa relation avec l'association Faits et Gestes de Casal.
Oui, ça, Faits et Gestes, la compagnie Divergence, sont les danseurs.
Les danseurs, oui, de Casal.
Qui sont donc à 3 km de Jindou, que nous connaissons très bien, et qui pilotent en fait un accueil en résidence depuis quelques années. Accueil en résidence d'artistes qui sont à la croisée et, de différents... art et médium, dont la danse et l'image
vidéo.
Et le cinéma, et la vidéo. Martin Le Gall, alors les Toulousains le connaissent peut-être, parce que c'est un réalisateur de Toulouse, qui a fait un premier long métrage il y a 2-3 ans, qui s'appelle Pop Rédemption. Et le travail là qui va, alors il va venir, il est en résidence, donc à côté de Jindou, donc à Marmignac, en l'occurrence, et c'est un travail, non pas pour faire un film, mais donc pour créer un spectacle, et notamment
un spectacle vivant, notamment avec
des comédiens et des circassiens, mais ce spectacle-là, finalement, Martin l'a imaginé, ou en tout cas y est arrivé, presque un peu par hasard, c'est-à-dire dans le cadre de sa réflexion et de l'écriture d'un nouveau long métrage, d'un nouveau film.
D'accord.
Et je dirais que...
Comme quoi les disciplines se croisent.
Voilà, en attendant, je dirais,
de
pouvoir faire aboutir ce projet de film, eh bien, il est parti sur cette idée de spectacle qui finalement a fait son chemin. Et je pense qu'on... Alors là, ce sera une répétition, c'est-à-dire à un certain stade, je dirais, de ce travail de résidence. C'est
bien
pas
sûr.
L'œuvre finie.
Oui, mais c'est toujours intéressant.
C'est très intéressant et il est à prévoir que... ce spectacle existera avant le film et comment se réapproprier Molière aujourd'hui en plus il y injecte des histoires de chasse à la palombe donc c'est assez iconoclaste et Martin de toute façon c'est un peu son univers et donc c'était l'occasion donc le samedi 26 août il y aura donc à midi une répétition publique de ce travail, de ce spectacle en cours.
Et ça sera en plein air, dans le Louxor?
Ce sera dans notre salle de journée, dans le Louxor.
Dans le Louxor, d'accord. Et donc, c'est aussi ça renvoie aussi à la place de la femme dans la société.
Eh oui.
Aussi, vous ouvrez une autre porte, si je puis dire, alors là, vers
du coup, j'en profite, j'en reviens à Agnès Godard, c'est pas bête, mais nous, on voulait aussi cette année, on voulait une femme comme invitée d'honneur.
D'accord.
Et c'est vrai que, et dans le fond, on pourrait aussi tisser un fil, par exemple, dans cette vaste programmation qu'on va présenter pendant 8 jours, sur le fait que ce serait une programmation assez féminine, voire assez féministe. Et par exemple, on ouvrira le dernier soir, samedi 26, notre soirée avec le prochain film de Tony Marshall qui s'appelle Numéro 1. Voilà,
D'accord.
Un film qui sortira à l'automne, mais qui s'inscrit complètement
dans cette démarche.
Voilà, exactement.
Donc là aussi, vous tissez des liens avec les Ateliers des Arcs, donc qui est ce lieu qui...
c'est les arts plastiques.
Les arts plastiques, peinture, sculpture. Et donc, il y aura aussi c'est un documentaire intitulé « Un si joli village » de Pierre Aragon, donc qui suit des artistes qui ont été en résidence aux Ateliers des Arcs.
C'est ça, c'est le deuxième volet. Il avait fait une première fois cette... un premier film avec une première où il avait suivi, je ne sais plus quelle année, puisque en fait chaque année des artistes sont invités et viennent en résidence pour plusieurs mois. Donc il avait suivi une édition, il en a suivi une autre et donc ça s'intitule Un si joli village. Ce sera le deuxième volet de ce travail de Pierre Aragon autour de ce qui se passe donc aux arts, aux ateliers des arts et avec les artistes d'ailleurs qui viennent du monde entier.
Oui, oui. Voilà. Ah oui. Et donc comme ça, tous les ans, vous ajoutez quelque chose et vous semez des petits cailloux comme ça vers d'autres disciplines, une ouverture. Enfin, vous êtes toujours en marge, si je puis dire.
Mais parce que je pense que le cinéma,
c'est l'ouverture vraiment.
Le cinéma, il est à la croisée. Hein.
Oui, bien sûr.
On pourrait parler aussi. On a un travail aussi toute la semaine avec. On a la librairie La Tartine.
La Tartine de Saran, oui.
Qui se transporte jusqu'à chez nous pendant 8 jours. Mm-hmm. Et du coup, petit à petit, on a mis en place aussi on invite des auteurs et qui vont venir faire
présenter leurs livres, des éditions.
Là, notamment, je peux citer une personne qui est journaliste, un journaliste cinéma, et qui vient d'écrire un bouquin qui s'appelle Double Vague. Mm-hmm. Sur la double vague, c'est on va dire justement la nouvelle vague de cinéastes en France et qui viennent pour beaucoup, enfin ceux qui viennent des quartiers, voilà. Alors non pas pour dans l'idée de effectivement de signaler un nouveau ghetto, mais bien au contraire de montrer à quel point effectivement là il y a une génération de cinéastes. D'ailleurs parmi eux, enfin il y en aura parmi eux qui seront à Jindou cette année. Hein, je pense notamment à Karine May, à Kim Zouani, et qui renouvellent aussi ce cinéma français et qui souffrent. Des questions de représentation et de discrimination à un certain niveau, voilà, hein, mais qui cherchent d'abord et avant tout à être reconnus comme des cinéastes à l'égal de tous.
Comme des créateurs.
L'auteur, c'est Claire Diao, et elle viendra donc pour présenter ce bouquin qui s'appelle Double Value.
D'accord. Et là, nous n'avons malheureusement plus le temps d'évoquer tout ce travail aussi que vous faites d'aide, d'accompagnement à l'attention des jeunes et des futurs cinéastes. Alors peut-être une autre fois. Et là, parce que nous allons devoir rendre l'antenne et nous allons finir avec un petit extrait musical. Non, ah non, c'est pas petit. Une bande-annonce d'un film de Claire Denis pour nous séparer. Si
très
c'est
bien.
Possible techniquement parlant. Parce que là, finalement, nous avions une heure, mais voilà, donc...
C'est passé déjà ?
Et oui, c'est...
Ah, okay.
Il est 13h59.
Ah oui, ok.
Alors, je vous rappelle tout à l'heure hors antenne.
Très bien.
Mais merci pour toutes ces précisions que vous nous avez apportées, tout ce travail de fourmi, mais vraiment que vous faites comme ça au jour le jour et ce qui fait que chaque année, les rencontres de Jindou s'agrandissent, s'enrichissent tous les ans un peu plus. Toute cette grande diversité, toutes ces pistes de réflexion. Merci aussi de votre enthousiasme et dont là nous devons clore. Donc je vous dis au revoir, à bientôt.
Au revoir et merci.
Merci.